Early this morning, the government of Turkey informed my administration that they would be stopping combat and their offensive in Syria and making the ceasefire permanent.
En d'autres mots, le nettoyage ethnique va être mis sur pause.
Ben, c'est ça. Selon Donald Trump, ça va être mis sur pause de façon indéterminée, de façon permanente, mais en même temps, dans le même point de presse, dans la même déclaration, ce que Donald Trump est allé dire proactivement sans que personne lui pose la question, c'est que dans cette région-là du monde, lorsqu'il y avait un cessez-le-feu qui était déclaré, c'était douteux de croire que ça allait durer. Il y a eu ça qui est assez particulier, Patrick. L'autre chose aussi que Donald Trump est allé déclarer, qui est assez questionnable, assez douteuse également, c'est que c'est uniquement grâce aux États-Unis que ce cessez-le-feu a lieu. Or, lorsqu'on regarde ce qui se passe depuis les derniers jours, c'est assez difficile de nier que la Russie semble avoir mis aussi son grain de sel là-dedans et avoir mis une quantité de pression assez considérable sur le gouvernement turc pour qu'il arrête cette offensive-là. Au final, on se retrouve dans une situation où d'un côté de la bouche, le président américain dit que c'est un succès actuellement ce qui se passe en Syrie. Ça, c'est le mot exact qu'il utilisait plus tôt aujourd'hui, un succès.
Alors que ces armées ont dû retraiter, se retirer de cette région-là dans le chaos le plus complet.
Et que ça fait des centaines de victimes, c'est pas
parce que étant parti, là, les Turcs sont libres de fesser sur les Kurdes, ce qu'ils voulaient faire depuis longtemps. Puis le drame là-dedans, il faut le dire, Raphaël, c'est que les Kurdes ont été des alliés très précieux dans la lutte à l'État islamique.
Exactement. Et, entre autres, parce qu'il y a eu la lutte contre l'État islamique, il y a eu plusieurs autres combats, conflits, guerres dans lesquelles les États-Unis ont été et dans lesquelles les Kurdes les ont aidés. Donc ça, c'est une chose. Il y a aussi le fait que, en même temps que tout ça, ça se passe, l'envoyé spécial dans la région de l'administration Trump est allé déclarer sous serment, dans un témoignage aujourd'hui, que l'administration américaine est en train d'enquêter sur des allégations de crimes de guerre par les forces turques contre les Kurdes. Donc, c'est pas simplement qu'ils s'en sont donnés à cœur joie, c'est qu'il y aurait eu carrément des crimes de guerre, notamment l'assassinat d'au moins un politicien kurde, ou turc, et plusieurs victimes innocentes qui étaient attachées au moment qu'ils ont été assassinés. C'est assez horrible, merci. Et comment est-ce que tu peux dépeindre ça comme un succès? C'est assez difficile de donner une réponse convaincante à ça.
Dans l'univers de Trump, les critères sont très différents. Parfait.
Hey,
curiosité, en Californie, le département de la justice américain a lancé une poursuite contre l'État de la Californie et le Québec est au cœur de la poursuite.
Le Québec est au cœur d'une poursuite qui vient d'être lancée entre le gouvernement fédéral américain et le plus important État américain. On ne voit pas ça tous les jours, mais là, on le voit aujourd'hui. Pourquoi? Remontons d'abord un petit peu dans le temps, parce que dans à peu près tous les articles que j'ai vus là-dessus qui sont sortis au courant des dernières heures, il n'y a personne qui mentionne l'origine de cette affaire-là. À la fin des années 2000, il y a un consortium, si on veut, de plusieurs États américains et d'au moins une province canadienne qui était la Colombie-Britannique, qui avait essayé de partir quelque chose qui s'appelait la Western Climate Initiative. La raison pour laquelle ça s'appelait Western, c'est parce que c'était toutes des juridictions de l'Ouest. Tu avais la Californie, tu avais le Nouveau-Mexique, l'Oregon, l'État de Washington, l'Utah. Donc, une série d'États de l'Ouest plus la Colombie-Britannique. Et ça n'a pas vraiment duré parce qu'au bout de quelques années, on s'est rendu compte que ce qu'on voulait vraiment faire avec ça, c'était un énorme marché de bourse du carbone. Et il y avait juste la Californie qui était intéressée à se doter d'un marché de la sorte. Donc, la Californie est restée et parce qu'elle se cherchait des partenaires à l'extérieur des États-Unis parce qu'il n'y avait aucun autre État qui était preneur, ils se sont tournés vers le Canada et le Québec est devenu partie prenante. Donc, présentement, depuis les dernières années, depuis à peu près 5-6 ans, tu as un marché du carbone qui lie la Californie au Québec. On le sait, l'administration Trump n'a pas nécessairement les mêmes visées environnementales que la Californie peut avoir ou que le Québec peut avoir. Donc, c'est une espèce de bras de fer auquel on assiste entre la Californie et l'administration Trump, en fait, depuis le début de l'administration à Washington, de cette administration-là à Washington. Et là, dans la nouvelle manche, on veut la nouvelle bataille, on va amener l'État de la Californie devant la justice, on va essayer de les traîner devant la justice en disant que la Californie n'avait pas le droit de se lancer dans ce marché-là avec une juridiction étrangère comme le Québec, parce qu'il s'agit de l'équivalent d'un traité international. Et un État ne peut pas, de façon unilatérale, sans l'aval du gouvernement fédéral américain, se lancer dans l'équivalent d'un traité international. Donc, c'est assez fascinant. Quelle sera la défense de la Californie là-dedans? On l'ignore.
OK, parfait. Et il reste un an avant le prochain scrutin présidentiel. Et là, il y a un sondage qui est sorti sur l'intérêt des Américains pour cette élection-là.
Écoute, c'est fascinant. Sondage CNN, je te lis la question, le libellé de la question. À quel point êtes-vous enthousiaste à l'idée de voter lors de la prochaine élection présidentielle l'an prochain? On le rappelle, c'est en novembre 2020, on est en octobre 2019. Extrêmement enthousiaste, 47 %. Mmh. C'est presque un Américain sur deux qui se dit extrêmement enthousiaste. Très enthousiaste, 24 %. Autrement dit, tu as plus de 70 % d'électeurs américains qui, à plus d'un an du vote, se disent soit extrêmement ou très enthousiaste à l'idée de voter l'an prochain. Et ça, c'est vrai des deux côés du spectre politique américain. 48 % des démocrates, 54 % des républicains qui se disent extrêmement enthousiastes. Et pour te donner une petite référence, là, une idée historiquement, je suis retourné aux archives dans les 15 dernières années. C'est le taux de loin le plus élevé, incluant lorsque la question a été demandée à une ou deux semaines du vote. Là, on est à un an du vote. Écoute bien ceci. En octobre-novembre 2008, ça, c'était une semaine avant la première élection de Barack Obama. On s'entend qu'il y avait énormément d'engouement.
Beaucoup d'engouement.
Beaucoup d'engouement autour de la campagne électorale américaine. On était à 37 % d'Américains qui se disaient extrêmement enthousiastes. On est 10 % plus élevé que ça. Il reste un an de campagne. Donc, que vous l'aimiez ou que vous le détestiez, Donald Trump rend personne indifférent. C'est ça que ça montre.
Ben, écoute, on reste plus qu'à voir combien d'Américains vont aller voter.
En effet.
Et aussi, on en parle souvent, toi et moi, Raphaël, combien d'Américains n'auront pas le droit de voter parce qu'il y aurait eu toutes sortes d'obstacles pour les empêcher de voter. Parfait, merci, Raphaël. On se retrouve demain. Hey, dans quelques minutes, on va vous dire quelle ville au Québec a la meilleure eau de robinet. Oui, oui, il y a un concours qui a été organisé et on a des gagnants à vous annoncer là-dessus. Et Luc Ferrandez s'en vient. On va parler de ce drame familial.